Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manulakidze à la présentation de cette édition du mardi 11 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Opération anti-djihadiste au Burkina, une vingtaine de terroristes tués et des bases détruites. En Éthiopie, un officiel dénonce une campagne visant à empêcher les travaux agricoles au Tigré. Au moins 28 morts dans les échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza. En Russie, une fusillade dans une école fait 9 morts. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au moins une vingtaine de djihadistes ont été tués et 4 bases terroristes détruites depuis le lancement le 5 mai d'une opération anti-djihadiste dans les régions du nord du Burkina Faso et du Sahel, a annoncé mardi l'armée burkinabée. Les précisions de Nanit Talani.
Le 5 mai, les forces armées nationales ont lancé une opération d'envergure dans les régions du nord et du Sahel, a indiqué l'état-major burkinabé dans un communiqué. Dénommé Ouné, qui signifie la dignité en langue peul, cette opération, toujours en cours, mobilise les unités de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale. Elle va s'étaler sur plus d'un mois et a déjà permis de neutraliser plus d'une vingtaine de terroristes et de détruire 4 bases ou positions des groupes armés, a expliqué une source sécuritaire. Samedi, 3 civils ont été tués à Tin Akof, dans la région du Nord. Le même jour, un engin a explosé au passage d'un détachement militaire de Monsila qui effectuait une mission d'escorte. Depuis 2015, ces attaques attribuées à des groupes djihadistes ont fait quelques 1300 morts et contraint plus d'un million de personnes à fuir leur maison.
Le procès devant la justice finlandaise de l'ancien chef rebelle Jibril Massakwa pour des crimes de guerre commis au Libéria est entré mardi dans une nouvelle phase avec les premières auditions de témoins à Freetown. Il comparaît pour des meurtres, viols et actes de torture perpétrés au Libéria entre 1999 et 2003. Surnommé à l'époque l'Ange Gabriel, il était alors un haut responsable du RUF, groupe armé sierra-léonais dirigé par Fode Sanko. L'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique continuent d'être attaqués. Le Comité national pour la libération des détenus indique que plus de 70 personnes sont incarcérées. Toujours en Algérie, la marche des étudiants prévue mardi à Alger a été interdite pour la 3e semaine consécutive par les autorités qui ont procédé à de nombreuses arrestations, dont plusieurs journalistes qui ont été brièvement placés en détention. Le Kenya a annoncé mardi la suspension des vols depuis et vers la Somalie, quelques jours seulement après que Mogadiscio a annoncé la reprise de ses relations avec son voisin après des mois de tension. L'autorité kényane de l'aviation civile n'a pas donné d'explication sur cette interruption pour 3 mois. Les évacuations sanitaires et le vol des Nations Unies à but humanitaire restent maintenus. Le numéro 2 de l'administration provisoire du Tigré dénonce ce qu'il appelle une campagne délibérée visant à empêcher les travaux agricoles, craignant une famine dans cette région éthiopienne en guerre. Abdulrahman Dia.
Selon Abebe Gebreiwo, il y a une campagne qui a débuté pour empêcher les travaux agricoles. L'officiel accuse ceux-là même qui sont chargés de faire respecter la loi. Outre l'armée fédérale, des troupes érythréennes et des forces spéciales de la région voisine d'Amara sont déployées au Tigré. Il accuse les auteurs de vouloir laisser le peuple du Tigré mourir de faim. Les agriculteurs tigréens se voient empêchés d'accéder à leurs champs et les semences ne parviennent pas jusqu'à certaines zones, a affirmé M. Abebe, qui est en charge des affaires économiques de l'administration temporaire mise en place au Tigré par le gouvernement d'Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre 2020 une opération militaire d'envergure pour en déloger les autorités dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré qui a dominé la vie politique éthiopienne pendant près de 30 ans.
La famine resserre son emprise dans le sud de Madagascar et chaque jour met en péril de nouvelles vies. L'ONU a mis en garde que plus d'un million de Malgaches ont faim. La région traverse la pire sécheresse depuis une quarantaine d'années et près de 14 000 personnes ont atteint le niveau catastrophe, affirment la FAO et l'OPAM.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Biden a annoncé mardi l'assouplissement temporaire de la réglementation environnementale sur le carburant dans 3 États de l'Est du pays et dans la capitale Washington pour éviter des pénuries après le piratage d'un oléoduc américain. Nouvelle journée d'affrontement entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui. Selon un dernier bilan, au moins 28 Palestiniens, dont 9 enfants et 2 Israéliennes, ont été tués dans la pire escalade des dernières années entre le Hamas et l'État hébreu, déclenchée à la suite de violences à Jérusalem-Est. Le point avec Jacques Aristide.
Roquettes contre frappes aériennes, un déluge de feu s'abat sur la bande de Gaza et le sud d'Israël. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, affirme avoir tiré dans l'après-midi 137 roquettes en moins de 5 minutes. Côté israélien, l'armée dit avoir frappé à la mi-journée environ 130 cibles militaires appartenant pour la plupart au Hamas. Le djihad islamique, second groupe armé de la bande de Gaza, indique que 2 de ses commandants figurent parmi les morts. Le Hamas a menacé l'État hébreu d'une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, où des heurts quotidiens opposant des Palestiniens à la police israélienne ont fait des centaines de blessés depuis vendredi dernier. L'ONU se dit profondément inquiète de l'escalade. Avec l'aide du Qatar et de l'Égypte, elle tente d'amorcer une médiation auprès des parties concernées afin d'obtenir une désescalade.
Le gouvernement tunisien a condamné mardi une agression contre les territoires palestiniens menée par Israël et appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités, tandis que plusieurs dizaines de manifestants ont apporté leur soutien au peuple palestinien après des échanges de tirs meurtriers. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que le Caire a tenté en vain de discuter avec Israël pour apaiser les tensions. Ces derniers jours, l'Égypte a abondamment tenté de discuter avec Israël et d'autres pays afin de les appeler à faire tous les efforts possibles pour empêcher la détérioration de la situation à Jérusalem. Mais nous n'avons pas eu de réponse positive, a déclaré M. Choukri lors d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe en visioconférence. En Iran, l'inscription des candidats à la présidentielle du 18 juin pour élire un successeur à Hassan Rouhani a commencé mardi à Téhéran. Les dépôts des candidatures doivent s'étaler sur 5 jours. Ces candidatures doivent être validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, contrôlé par les conservateurs. La liste définitive sera rendue publique les 26 et 27 mai. Le lendemain débute la campagne électorale qui durera 20 jours. En Russie, au moins 9 personnes, dont 7 élèves, ont été tuées et une vingtaine de blessés dans une fusillade dans une école de Kazan, une grande ville dans le centre de la Russie. Un tireur âgé de 19 ans a été interpellé, Claire Morin-Gibourg.
Sur des vidéos filmées par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des enfants et des adolescents sautant des fenêtres du bâtiment de 3 étages. D'autres sont allongés ensanglantés et reçoivent des premiers soins. Le tueur a fait 9 morts, selon le dirigeant de la République du Tartastan, dont Kazan est la capitale. Au moins 18 enfants et 2 adultes ont été hospitalisés. Ce genre de drame est relativement rare en Russie, où le contrôle des armes est strict. Le président Vladimir Poutine a ordonné de revoir les règles régissant le port des armes. Cette fusillade rappelle celle d'octobre 2018, lorsqu'un élève avait tué 19 personnes avant de se donner la mort dans un lycée de Kerch, en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie. À l'époque, M. Poutine avait blâmé la mondialisation, estimant que le phénomène des fusillades dans les écoles provenait des États-Unis.
L'armée américaine a annoncé mardi avoir avancé à hauteur de 6 à 12% dans son retrait d'Afghanistan, qui doit être achevé d'ici le 11 septembre. Ce processus qui, dans les faits, était déjà en cours depuis des mois, laissera l'armée afghane seule face aux talibans. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Talani.
Le Botswana et la Zambie ont inauguré un pont routier et ferroviaire qui s'étend sur 923 mètres au-dessus du fleuve Zambèze. Le pont de Kazungula va favoriser le commerce en Afrique australe en facilitant le transport de marchandises et des personnes. Sa construction a débuté fin 2014 pour un coût de 259 millions de dollars. Le pont a été cofinancé par la BAD, le Japon et les gouvernements de la région. Au Nigeria, la production de cacao pourrait s'établir autour des 320 000 tonnes cette année, contre 250 000 tonnes la saison dernière. Cette embellie est due à des précipitations plus élevées que prévues. Le Nigeria est le cinquième producteur mondial de cacao et sa récolte moyenne intermédiaire se situe entre 50 000 et 60 000 tonnes.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Lamine Diack, 87 ans, est rentré hier au Sénégal pour la première fois depuis sa mise en cause dans une vaste affaire de corruption présumée autour du dopage en Russie. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015 a été accueilli par sa famille à sa descente d'avion en provenance de France, a confié un de ses proches. M. Diack a été condamné par la justice française à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 500 000 euros d'amende pour corruption et abus de confiance. Il a fait appel de cette condamnation. Dans un second dossier, Lamine Diack est mise en examen depuis mars 2019, toujours pour corruption, dans le cadre des attributions des JO 2016 à Rio et 2020 à Tokyo. Entre autres, la justice a levé son interdiction de quitter le territoire contre le versement d'une caution de 500 000 euros correspondant à l'amende encourue. L'Afrique va vibrer à partir du 16 mai au rythme de la Basketball Africa League, une compétition créée par la NBA en partenariat avec la FIBA Monde. 12 équipes s'affrontent dans la Kigali Arena pour le tout premier trophée de la balle qui prendra fin le 30 mai. Nous vous les présenterons tout au long de la semaine. Nous commençons ce soir avec 3 équipes. Bagassi Koura nous dit qui sont les Sénégalais de l'AS Douane qui participent à cette balle.
Oui, créée en 1980 à Dakar au Sénégal, l'association sportive des douanes compte 9 titres de champion du Sénégal, dont 4 consécutifs de 2016 à 2019. Depuis 2016, son coach Mamadou Gueye est nommé meilleur entraîneur chaque année. L'équipe a une longue histoire de joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe nationale du Sénégal dans des compétitions internationales. La nouvelle recrue américaine, l'ailier Chris Coquelet, a rejoint ses coéquipiers début mai et sera aux côtés de l'ailier fort Pape Diop, un autre joueur à suivre de près. En plus de Chris, les Gabelous, comme on les surnomme, ont engagé 2 autres joueurs, l'Égyptien Hassan Atia et l'international sénégalais Pape Modou Mbaye. L'objectif de l'AS Douane à cette balle, figurer dans le top 8 après 17 ans d'absence de la scène continentale.
Le Mali est aussi représenté dans cette balle avec l'AS Police, Nanit Talani.
L'AS Police, une équipe de basketball de la capitale malienne Bamako, s'est hissée au sommet du podium national en 2019, remportant le championnat du Mali avec un score parfait de 9 victoires, 0 défaites. Un titre qui lui a permis de disputer les qualifications pour la balle et arracher son ticket, le dernier disponible, après s'être imposé à Yaoundé face à Abidjan Basketball Club. Si l'AS Police a surclassé le championnat malien ces dernières années, alignant 2 titres 2019 et 2020, l'entraîneur Moussa Sogoré et le capitaine Samake Badra savent qu'ils jouent gros, eux qui viennent d'un pays réputé de basketball.
Toujours en Afrique de l'Ouest, le Nigeria se présente à cette balle avec les Rivers Hoopers. Michel Joseph.
Les Nigérians de Rivers Hoopers sont basés à Port Harcourt. Fondée en 2009 sous le nom de Royal Hoopers, l'équipe joue dans le Premier League nigériane depuis sa création. Les Hoopers ont remporté le championnat national à 3 reprises avec des titres consécutifs en 2011-2012. Leur dernier sacre remonte à 2019. Ils sont sous les ordres de l'entraîneur Ogo Odaudou et la responsabilité de leur capitaine Belema Alamina. Les Hoopers ont signé l'ancien arrière de la NBA, Ben Uzo, ainsi que le duo américain Taron Sullivan et Chris Daniels. Les Hoopers affrontent les Patriots du Rwanda en match d'ouverture de la Basketball Africa League.
Merci Michel.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, médiateur de la CDAO dans la crise politique malienne, achève ce soir une visite de 3 jours à Bamako. Après avoir rencontré hier les dirigeants de la transition, notamment le président Bandao, le médiateur Jonathan a échangé aujourd'hui avec des représentants de la classe politique et de la société civile sur la feuille de route de la transition. De Bamako, la correspondance de Mohamed Danyoko.
Avec le médiateur de la CEDEAO, les partis politiques ont longuement échangé sur l'état des lieux de la transition et surtout de la mise en œuvre de sa charte. Il s'agissait pour Goodluck Jonathan, lors de cette rencontre, de savoir si les politiques et les autorités intérimaires sont dans la même dynamique. Si les autorités estiment que l'organe unique de gestion des élections est impossible à mettre en place, les propositions ne manquent pas du côté des politiques. Cheblen Dramé, président du Parina.
Tout le monde a insisté sur la nécessité que les prochaines élections soient organisées sur une base consensuelle et qu'il y ait un organe consensuel agréé par tous et qui attire la confiance des acteurs maliens, des acteurs politiques et ceux de la société civile du Mali.
Pour les partis politiques membres du M5-RFP, ils ont réitéré leur rejet de la démarche exclusive adoptée par les autorités de la transition et mettent en doute la faisabilité des élections aux dates indiquées. Shogel Kokala Maïga, membre du directoire du M5-RFP.
Vous avez le chronogramme des élections qui n'est pas crédible, auquel grand monde ne croit. Et donc quand vous faites le point, au total, la transition tourne en rond, la transition n'a pas de cap. On est dans les discours diplomatiques, vous avez le comité d'orientation stratégique qui vient d'être installé, mais il doit d'abord prouver son utilité.
Pour la société civile, l'aspect sécuritaire constitue aujourd'hui un frein à la bonne tenue des futures élections. Mohamed Chérif Haïdara, membre de la société civile.
85% du Mali n'est pas sous le contrôle de l'État malien. Où est-ce qu'on va tenir des élections dans un pays où 85% on ne peut pas faire des élections? Où est-ce qu'on peut faire des élections dans un pays à un vol d'oiseau de Farabougou? Il faut que l'État négocie avec les djihadistes pour que les militaires puissent rester.
Pour Abdoulaye Allaye Touré, président du Conseil national de la société civile, malgré le contexte sécuritaire difficile, il est bien possible de tenir les élections aux dates indiquées.
Tout le monde connaît la situation sécuritaire au Mali. Elle est extrêmement difficile, très très difficile. Mais cela n'empêche pas que les élections, nous les préparions dans l'inclusivité, nous disons bien, mais pas dans l'exclusion, parce que dans l'exclusion, on risque d'échouer.
Après les autorités de la transition, la classe politique et la société civile, le médiateur va écouter les autorités religieuses et coutumières pour mettre fin à sa visite de 72 heures à Bamako. Mohamed Danyoko, VOA. Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, le chef de file de l'opposition a été nommé par décret présidentiel. Il s'agit de Paul Ungpe, secrétaire exécutif des forces Kori, pour un Bénin émergent, l'ancien parti de l'ex-chef de l'État, Boni Yayi. La nouvelle suscite diverses réactions, tant au sein de la classe politique qu'au niveau de la population. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Ayant acquis un nouveau statut public à la faveur de la reconnaissance officielle du parti FCBE, Force Kori pour un Bénin émergent en septembre 2019, Paul Ungpe est de nouveau sous les feux des projecteurs. Sa participation au dialogue politique d'octobre 2019 et à la présidentielle d'avril 2021 lui assure une certaine longévité politique. Il mesure très bien les responsabilités et promet de travailler pour une opposition forte qui va désormais participer à l'animation de la vie politique.
Nous sommes désignés et nous acceptons jouer pleinement le rôle. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Donc, nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Nous espérons que ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement innover, faire en sorte que ça devienne une tradition dans notre pays.
La nomination de Paul Rompuy s'inscrit dans le respect des tests qui régissent désormais l'activité politique au Bénin. Tout en souhaitant du courage au nouveau chef de file de l'opposition, Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, se réclame d'une autre opposition qui ambitionne d'accompagner le chef de l'État dans la réussite de son mandat.
Les lois sont ce qu'elles sont, mais les lois ne valent que ce que valent ceux qui en profitent, ceux qui les exécutent. Je prie que Paul Rompuy fasse bon usage de la position que la République lui donne et surtout qu'il joue son rôle. Nous sommes une opposition qui participe, qui soutient le président. Nous ne sommes pas une opposition qui s'oppose au président. Au contraire, nous nous opposons à la misère, à la faim et à tout ce qui peut amener de catastrophes dans le pays.
La nomination de Paul Rompuy comme chef de file de l'opposition est divinement appréciée au sein de la population. Pendant que certains pensent que cela fausse le jeu politique, d'autres estiment que cette hiérarchisation de l'opposition permettra aux autres de se mettre au pas.
Je m'attendais vraiment à cette désignation de Rompuy comme chef de file de l'opposition. Même si, au fond de moi-même, je pensais qu'on aurait quand même pu attendre un peu.
Notre démocratie a franchi une étape, celle de la reconnaissance de l'opposition. C'est un peu avoir un œil sur les actions de la mouvance, en fait. Malheureusement, au Bénin, on est toujours habitué à voir la mouvance et l'opposition en guerre.
Moi, je ne peux jamais croire que Paul Rompuy peut diriger l'opposition au Bénin. Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent d'abord pas. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent aller dire à quelqu'un pour que les autres puissent le croire? Ils diront toujours que c'est la mouvance.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement fédéral a réintroduit de nouvelles restrictions face au Covid-19. Les bars, les centres de loisirs vont fermer, les rassemblements publics sont limités à 50 personnes. Un couvre-feu national de minuit à 4 heures du matin est instauré. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Craignant la situation actuelle dans trois pays, notamment l'Inde, la Turquie et le Brésil, où il y a un nombre élevé de cas et un taux de mortalité élevé dû à une prévalence généralisée de variantes préoccupantes, les autorités nigériennes ont décidé de nouvelles restrictions pour prévenir et maîtriser efficacement la résurgence d'une phase aiguë de la pandémie de COVID-19 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dr Sani Aliou est le coordinateur de la commission sur le COVID-19 au Nigeria.
Nous allons maintenir les restrictions sur les rassemblements de groupes dans les lieux de travail à un maximum de 50 personnes. Les centres de loisirs, les bars, les clubs doivent rester fermés jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants doivent prévoir une capacité d'accueil de 50% et proposer des plats à emporter.
La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé l'interdiction d'entrée sur son territoire de passagers non nigériens qui se sont rendus en Inde, au Brésil et en Turquie au cours des deux dernières semaines en raison des préoccupations concernant la propagation rapide du coronavirus dans ces trois pays. Autre mesure annoncée par les autorités fédérales concerne les frais à verser pour les voyageurs pour se faire administrer un test de COVID-19. Le président de la Commission nationale sur le COVID-19, Boss Mustapha, explique.
L'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a fixé les frais des tests de COVID-19, que ce soit pour un test PCR ou n'importe quelle autre forme de test, à $50 au niveau de tous les points d'entrée effectifs à partir du 17 mai prochain.
Le gouvernement fédéral impose aussi des contrôles de température, aucune entrée dans tous les lieux publics et lieux de travail, entreprises et lieux de culte sans le masque facial. Des nouvelles restrictions qui ont suscité des questions au sein du public. Mais pour Alero Roberts, consultante en santé publique, ces mesures sont nécessaires.
C'est une préoccupation majeure pour nous qui sommes dans le domaine de la santé publique. Depuis quelques mois, nous voyons la montée en flèche des cas de contamination en Inde, ce que nous pensons être une inquiétude et une menace. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'Inde et le Nigeria sur le plan de la population, sur le plan du profil épidémiologique et considérant notre localisation géographique.
Le Nigeria a connu une deuxième vague de la pandémie de COVID-19, certains ayant vu une troisième vague en raison des nouvelles variantes plus contagieuses. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nombreux musulmans à travers le monde sont en train de passer les derniers moments du mois de Ramadan, un mois de jeûne, de privation et de prière. Comment les musulmans des États-Unis ont-ils vécu ce mois, surtout dans un contexte de COVID-19? John Lyndon a posé la question à l'imam Sheikh Kamara de l'African Muslim Association à Washington, D.C.
Dieu merci. En généralement, le mois de carême est assez bien passé. Mais on a eu des problèmes. On n'a pas pu passer le mois de carême comme d'habitude. Concernant le regroupement et déjeuner ensemble, on n'a pas pu faire ça cette année. Mais on a eu des opportunités. On a créé les Zoom et les conférences radio pour qu'on va se connecter avec notre communauté, échanger les idées ensemble, poser les questions, donner des réponses nécessaires et conseils aussi au propos de ce qui nous concerne et concerne notre communauté en général.
Le Ramadan, on le sait, c'est très difficile parfois pour les musulmans, mais au finish, il y a quand même un message qu'on peut retenir. Quel est le plus grand enseignement que vous aurez retenu au cours du Ramadan de cette année que vous pouvez partager avec nous?
Oui, je sais, Ramadan, c'est pas facile, mais c'est une période qui est très importante pour les musulmans en général, spécialement nous, les imams, qui enseignent les fidèles ce qui est normal et ce qui est nécessaire. Cette année, on a échappé beaucoup de choses. L'habitude, on se trouve ensemble, on échange idées et les repas ensemble, ou on prie ensemble, mais on a tout échappé. Cette opportunité cette année. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'est la période de COVID, comme je viens de dire, on a créé les Zoom et on donne des conseils sur les radios. Mais cette année, au moment de Laylatul Qadr, la nuit du destin, on a réservé une salle, grande salle, à la mosquée des Turcs, à Washington ici. On a invité les fidèles. Ils sont venus. On a fait la prière ensemble. On est resté là-bas jusqu'à le matin. Mais ce qu'on dit comme conseil, nous allons continuer à prier le bon Dieu pour éloigner cette maladie sale, pour qu'on va se retourner à notre habitude comme l'an passé. Donc ce conseil-là que je vais donner. Aussi, je m'adresse aux fidèles musulmans qui sont en Amérique ici, spécialement, ou les fidèles en Afrique aussi. Parce qu'en Islam, Dieu dit toujours « Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amr ».
L'imam chef Sheikh Kamara de l'African Muslim Association, ici à Washington, D.C. Il y a 40 ans, jour pour jour, Bob Marley nous quittait à 36 ans seulement. La musique produite lors de ces années prolifiques continue de résonner aujourd'hui. Bob Marley a amené le reggae aux quatre coins du monde, absolument partout. Pour la première fois, une musique moderne qui ne venait pas d'Angleterre ou des États-Unis trouvait un écho dans le monde entier. L'héritage de la légende du reggae reste vivace. La première star mondiale issue du tiers-monde a contribué, comme aucun autre, à ouvrir la musique à de nouvelles influences. L'album de ses plus grands succès, Legend, figure ainsi parmi les 5 meilleures ventes aux États-Unis depuis 13 ans sans discontinuer. Bonne fête à tous les Rastas du monde. Fin de cette émission. Merci de votre fidélité à l'Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. La production a permis la réalisation de cette édition. Michel Pierre-Joseph. Lionel Lunanila Gahima, Joselle Morissin, Eric Manirakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.